CFM Villefranche, le mag.
Ah oui, alors, le magazine d'actualité. Bon début de semaine. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. C'est Zoup, Lavli, Bidim, Patatrac, Badaboum, les lundis. Santé, bien-être, fleurette, pâquerette et assiette. Avec Karine Justeau pour commencer. Nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. Bonjour Karine.
Bonjour David. Vous avez failli me réveiller, pardon.
Oui. Comment ? Non, merci, j'ai plus soif. Voilà, j'étais à deux doigts de dire. Karine Justeau en piste et en poste et aux écoutes de cette première partie de magazine d'actualité, avant d'accueillir Charie Cordeau, qui est praticienne en Reiki. Comment, quoi, qu'est-ce donc? On va tenter de répondre au quoi déjà avec Charie Cordeau après une rapide respiration musicale. Pour l'instant, Karine, je crois avoir retenu qu'aujourd'hui vous alliez nous parler des ustensiles de cuisine, cul de poule, marquise,
les
thermomix.
Je vous propose de jouer. Hein, ça fait longtemps, vous savez que j'aime de temps en temps jouer. Et je vais vous proposer cette rubrique sous forme de questions, d'accord? Vous allez essayer de mettre en place d'autres choses et votre réflexion peut-être.
Sortie de l'épluche, légumes et
c'est
puis...
C'est déjà bien, ça veut dire que vous mangez des légumes. Hein,
veut dire que je connais l'outil.
Ok. Allez, dites-moi, pourquoi d'après vous, les culs de poule ont-ils un fond arrondi? Vous savez, pour vos auditeurs qui ne connaîtraient pas, ce sont les plats là qui sont tout en rond.
Il y a un petit plat quand même.
Peut-être à minima, mais en tous les cas, c'est très plat.
Pour mieux fouetter les blancs en neige qu'on veut faire des meringues.
Exactement, mais pourquoi? Quelle est la raison? Parce qu'en fait, c'est pas un hasard, hein. Il y a une raison purement technique.
Parce qu'en même temps qu'on fouette, il se secoue comme un bidibule. Vous vous rappelez des bidibules? Vous en avez eu quand vous étiez petite?
Probablement, je m'en souviens pas autant que tel, mais il y a des
personnages comme ça,
bidibule. C'est pas tout à fait ça, mais vous vous rapprochez de la vérité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avec votre fouet, un fouet de base, là, qui est rond, vous savez comment c'est fait, un fouet, si vous avez un plat carré, vous n'irez jamais en fait fouetter dans l'angle.
C'est un peu ce que j'ai dit.
C'est ce que je dis, vous vous rapprochez de la vérité. D'accord. Et donc du coup, n'allant pas dans l'angle, vous n'aurez jamais accès à toute la matière. Mmh. Exactement. Et donc il va rester du blanc liquide au fond du plat. Et là, vous allez me dire, David, vous me le dites,
le plat
glisse. Donc, une petite astuce pour le stabiliser, ce plat rond. Un torchon humide en dessous et un autre autour de la base.
C'est évident.
Et ça stabilise.
Quand on
vous voyez
bricole,
bien que vous êtes cuisinier finalement.
Moi, je sors le fer à souder et je le soude.
Là, il n'y a pas de souci. Vous avez des blancs en neige, c'est le top.
D'accord. Okay.
Allez, savez-vous pourquoi les planches en bois sont plus hygiéniques que celles en plastique?
Les planches en bois plus... le plastique, j'aurais pas trop bien fait confiance, parce que j'imagine que quand on coupe, vous savez, à l'heure de l'apéro, saucisse, vin rouge, petit apéro sympa, de campagne, quand on coupe une planche en plastique, il y a peut-être des bouts qui s'échappent, des bouts qu'on est peut-être susceptible d'ingérer, alors que moi, j'aime manger du copeau de bois plus. C'est mon côté bûcheron.
Je comprends. C'est pas tout à fait ça, tout le monde n'est pas bûcheron, je vous le rappelle.
Ouais.
C'est simplement parce que au cours de tests scientifiques, on s'est aperçu que les tanins qui sont en fait contenus dans les planches en bois, ça a le pouvoir en fait de tuer ces bactéricides, ça tue les bactéries. Alors que sur les planches en plastique, non, il n'y a rien qui les élimine, donc elles restent vivantes, voire même elles se reproduisent. Donc si l'hygiène n'est pas parfaite, et si à force de petits coups de couteau, ce qui va faire que la matière va s'accrocher, on peut imaginer que microbiologiquement parlant, ce soit moins intéressant. Vous savez, par exemple, c'est le cas des bouchers. De tout temps, on a travaillé sur du bois. Revenons aussi à l'essentiel.
Pour ses propriétés tanniques.
Voilà. Savez-vous pourquoi le papier alu est brillant d'un côté et mat de l'autre?
Alors ça, je m'en étais jamais aperçu et je serais incapable, si ça se trouve, j'ai fait des papillotes et pas dans le bon sens. Il doit y avoir un sens de cuisson et de transmission, de protection, en fait.
Moi aussi, je pensais ça avant de préparer cette rubrique, mais sachez que les deux côtés sont efficaces l'un comme l'autre, en fait. C'est simplement dans la fabrication que ça génère ça, parce que ce sont en fait deux feuilles d'alu qui sont superposées l'une sur l'autre, et ensuite, ces deux feuilles d'alu, elles sont étirées entre deux cylindres, de manière à ce qu'elles s'aplatissent complètement, vous savez, sans qu'elles se déchirent. Et c'est le frottement entre les feuilles, donc les feuilles à l'intérieur qui donnent l'aspect mat, et celles qui sont contre le cylindre, reste brillante. Mais elles ont la même efficacité. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, j'en profite juste pour dire qu'effectivement, on le sait aujourd'hui, de mettre en contact nos aliments avec de l'alu, ça peut éventuellement provoquer un transfert de certaines de particules qui peuvent être neurotoxiques. Si toutefois vous utilisez régulièrement le papier alu, faites attention. Et peut-être la petite astuce, si vous voulez passer, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui recouvrent leur plat d'une feuille d'alu avant de le mettre au plat. Ouais. Mettez un papier cuisson entre deux, comme ça l'alu n'est pas directement en contact avec l'aliment. Voilà. Une petite dernière sur les couteaux. Pourquoi, savez-vous pourquoi les couteaux à jambon et à saumon ont des alvéoles? Vous savez, ce sont des couteaux qui ont des
trous.
Voilà, exactement. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait rarement de hasard.
Parce que sinon, ça va... Comme ça, ça aspire le couteau et on n'avance plus. Je ne sais pas du tout pourquoi il y a des... Pour faciliter la coupe, peut-être, certainement.
C'est presque ça, effectivement. C'est parce que le jambon cru, hein, j'entends, le saumon, voire même certains fromages, parfois on voit ça sur les plateaux à fromage aussi, ce sont des aliments qui sont plutôt gras, plutôt souples. Et donc, ça va tendance à avoir...
Ça va accrocher sur la lame.
Et justement, les alvéoles, ça permet d'introduire de l'air entre la lame et la tranche de saumon, admettons. Et donc, du coup, on va faire quelque chose de beaucoup plus propre.
Et oui, et le jambon, il fait moins son malin après.
Exactement. Allez, une petite dernière, bien sûr. Pourquoi est-ce que le matériau du plat influence le résultat de la cuisson, par exemple, quand on cuisine au four, d'après vous?
Le résultat de la cuisson, du genre, si c'est du verre, c'est du pyrex...
C'est là le sens de ma question.
De la terre ou juste sur la grille parce qu'on n'a rien. Alors là, je ne saurais pas vous dire. Pas d'idée. Même pas une bêtise à dire.
Alors, écoutez, comme ça, ça vous permettra certainement d'avoir des plats vraiment idéalement cuits, on va dire. L'explication, elle se tient dans l'air chaud du four, en fait. C'est une enceinte, il y a de la chaleur. Et en fait, ça transmet mal la chaleur aux aliments, d'accord? Et ça transmet mal tout court. D'ailleurs, si vous avez un four, admettons, qui est chauffé à 100 degrés, vous allez pouvoir passer votre main, alors vos auditeurs ne me voient pas, mais tendre la main et passer dans le four, vous voyez, sans rien toucher, évidemment. Par contre, une eau qui bout à 100 degrés, si vous plongez le doigt dedans, ça va vous faire très très mal. Donc, ça veut dire que la chaleur, effectivement, n'a pas le même impact sur les aliments quand c'est au four ou ailleurs, d'accord? Juste pour vous faire un petit topo, les plats en fonte, vous voyez ce que c'est, ça va bien absorber, justement, parce que c'est très conducteur, ça va bien absorber la chaleur et la diffuser sur toute la surface. Et de ce fait, évidemment, l'aliment va être cuit de façon extrêmement homogène.
Mais on peut pas, un plat tarte, admettons, en fonte, ça serait pas bien là pour le coup.
Non, pour le coup, ce serait pas forcément bien. Il faut que ce soit entouré. Et puis même les plats en fonte, souvent, ils ont un couvercle. Ouais. Et donc le couvercle garde aussi la chaleur. C'est en ça que c'est intéressant, vous voyez. Les plats en fer, en acier, en alu, en inox, eux, on va considérer qu'ils vont cuire violemment. Vous voyez, si vous chauffez un morceau de fer, ça va monter sur une température très vite, très, très, très haute. Et donc, eux, ils vont être intéressants, ces plats-là, si on a envie de créer des sucres et de faire dorer rapidement, par exemple, à une pièce de boucher. Vous voyez, ces plats-là, c'est pour des cuissons qui vont donc être super rapides à faire, à des fortes températures et avec des aliments qui sont malgré tout peu épais. D'accord, parce que voilà, c'est violent, mais c'est pas profond. Et puis les plats en terre cuite, ça se faisait beaucoup à l'époque, j'ai le sentiment que ça se fait un petit peu moins aujourd'hui. Mais ces plats en terre cuite, on va les tremper, l'astuce c'est de les tremper 10 minutes avant la cuisson dans l'eau. Donc l'eau est absorbée par la terre, si vous voulez. Et une fois que l'on met dans le four, ça crée comme une espèce de vapeur. Et ça va donner une atmosphère humide. Les aliments, ils ne pourront pas dorer. Mais par contre, voilà, ils vont avoir tout le moelleux de la cuisson un petit peu à la vapeur. Voilà.
C'était tout bien cette petite chronique sur les ustensiles. Rien sur le Thermomix, c'est pas grave.
Non, rien sur le Thermomix, on a dit qu'on faisait pas de pub.
Robot multifonction. Une chronique sur les robots multifonctions et tout ce qu'on a, mais là, parce qu'il n'y avait rien qu'on branche sur une prise, mais il y a des outils vachement bien pour faire monter la mayonnaise, par exemple.
Oui, si vous voulez que je vous prépare une petite rubrique, sachant que je ne suis pas une cuisinière.
Mais
on peut en discuter, effectivement.
Comment se faciliter la vie en cuisine grâce aux hautes technologies de l'électricité?
Allez, ça marche.
Merci Karine.
Avec plaisir et bonne journée à tout le monde.
On retrouve votre intervention en podcast sur le site cfmradio.fr. La chronique s'appelle Diet News. Voilà. Et d'ailleurs, Diet News, c'est l'indicateur aussi pour vous retrouver sur les réseaux sociaux. Page Facebook et compte Instagram. Voilà, voilà. Le Reiki, c'est quoi? On en parle avec Charie Cordeau, qui est praticienne, après une rapide respiration musicale. Merci Karine, belle journée. À la semaine prochaine.
Au revoir David, à bientôt.
C'est bon? Non, non, c'est bon, ça y est. Alors là, là, je peux y aller tranquillement.
CFM Villefranche, le mag.
Allez, vous venez nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Charie Cordeau. Bonjour Char.
Bonjour.
Charie Cordeau, donc praticienne en Reiki, et, dans le cadre de cette deuxième édition du magazine d'actualité depuis la rentrée maintenant, et dans nos égarements thérapeutiques, aujourd'hui, on va aller dans le mystique, je serais tenté de dire. On connaît tous le air guitare, là je crois qu'on va être dans le air soin, avec air soin énergétique, avec le Reiki, en tout cas de ce que moi j'ai pu rapidement lire avant de vous recevoir. Le Reiki, c'est quoi? Ça vient d'où? Et puis, quel est votre parcours, pourquoi avoir choisi peut-être de pratiquer cette mystérieuse discipline?
Alors, le Reiki, c'est quoi? Le Reiki, c'est effectivement un soin énergétique, comme vous l'avez dit, ça vient du Japon. C'est pas très vieux, ça date du début du XXe siècle. C'est un prêtre catholique qui était également évidemment très imprégné par la culture taoïste et bouddhiste, puisqu'il est japonais, et qui, suite à une retraite dans une grotte, a, comme on dit, vu la lumière, c'est-à-dire il a reçu des informations. À ce moment-là, il a compris que, en fait, chaque personne avait un pouvoir de guérison, d'auto-guérison d'abord, et puis de guérison pour les autres êtres autour d'eux. Voilà, et du coup, à partir de ce moment-là, il s'est dit, voilà, super empuissancement, quelque part, une manière de se réapproprier sa guérison, son chemin. Et du coup, il a commencé à tester des choses, voilà, juste par apposition des mains. Donc, sans contact, effectivement. Air soin
énergétique, le Reiki. C'est « Ouh, je vous soigne
ouais. !» Voilà, et à partir de là, l'expérience prouvant qu'il avait eu la bonne intuition, il a développé une école, il a transmis sa pratique, voilà. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui, effectivement, a conquis le monde, entre guillemets, comme beaucoup de pratiques asiatiques ont été réappropriées par les occidentaux. Il y a aujourd'hui une école occidentale et il y a toujours la lignée japonaise d'origine, dont moi je fais partie, puisqu'en fait, on fait partie de la lignée, on dit, voilà, la lignée Uzui Reiki Royo.
Oula.
Voilà. Donc c'est du nom du fondateur, voilà.
Une méthode dite non conventionnelle. En tout cas, c'est ce qu'on trouve sur le Wikipédia. Wikipédia
D'accord.
n'est pas forcément l'ami de tout le monde, contrairement à Google. Non, c'est pareil, ça marche pareil. C'est pas toujours l'ami de tout le monde, Google. En tout cas, suspecté de dérive sectaire, ce qui fait que, un espèce de mystère plane autour de cette pratique.
Oui, alors effectivement, il y a cette légende un peu autour du Reiki. En fait, tout simplement, chaque personne, puisque chaque personne est reconnue comme ayant un pouvoir d'auto-guérison et de guérison, toute personne, toi aussi, moi, ma voisine, voilà, peut en fait être initiée au Reiki et pratiquer.
Alors je vais chercher où moi ces ressources. Il est où mon don? Je cherche.
Alors il y a pas de don. C'est le principe, c'est de dire en fait on a il y a pas de don. C'est juste que tout être humain faisant partie du vivant de manière générale, donc du grand tout dans la culture taoïste, eh bien il est connecté à l'univers. Donc aux autres êtres vivants, mais aussi à toutes les types d'énergie et l'énergie de vie qu'on va retrouver dans toutes les pratiques asiatiques, on appelle le chi. Donc en japonais ça s'écrit KI, en chinois ça s'écrit QI, comme dans Qigong par exemple, qui est une pratique qui est très connue. Et du coup, cette énergie vitale, cette énergie de vie, elle circule entre tout, dans l'univers, dans le cosmos. Et l'idée, c'est de dire que l'être humain, faisant partie de l'univers, étant un animal comme les autres, lui aussi, il est relié à cette énergie de vie quand il naît. Et puis, on a identifié, on va dire que, comme pour beaucoup de choses, quand on grandit avec les conditionnements sociaux, on se coupe de cette énergie. Alors, on ne se coupe pas pleinement, sinon on mourrait, évidemment. On a l'énergie vitale en nous, mais la capacité à se relier à cette énergie de vie, on aurait tendance à la perdre en vieillissant. D'où ces pratiques de Qigong, Tai Chi Chuan, etc., pour le tantrisme et toutes ces pratiques, pour se reconnecter en fait à cette énergie qui circule. Et toutes les autres pratiques énergétiques, le magnétisme, etc., c'est le même principe. Donc en cela, le Reiki ne se différencie pas du tout des autres soins énergétiques. C'est vraiment la même idée, c'est de se relier à cette énergie vitale, la canaliser, c'est-à-dire lui demander de venir traverser la praticienne ou le praticien pour la concentrer et la donner à la personne qui la demande, donc ouais, la receveuse ou le receveur.
Il faut être super prudent, ça part en boule de feu des fois. Il y a des blessés hein, avec la pratique du Reiki. Comment ça se passe une séance de Reiki et qui vient te voir ou voir les praticiens en Reiki? C'est quoi le profil? Pour quel type de mots? Des souffrances, j'imagine. Ça peut être peut-être physique, peut-être psychique, je ne sais pas.
Et oui, les deux.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Émotionnel, effectivement, psychique, physique. Il y a pas de limite en fait. Si on sent un appel à aller vers un soin énergétique, alors on vient. Ouais. Effectivement, moi, les personnes que je reçois, c'est des profils divers. Il y a pas de normes. Des personnes qui sont très, qui arrivent en me disant, alors moi, je suis hyper rationnelle, je viens d'une culture scientifique, donc pour moi, c'est très mystérieux. Mais j'ai quand même senti une curiosité, un appel, donc je viens vous voir. Et qui sortent de la séance en disant, bah alors là, je m'attendais à rien. Mais alors, du coup, là, c'est très étonnant, j'ai ressenti des choses. Voilà, et qui, quelques jours après, sentent un allègement réel et reviennent en séance. Donc ça, c'est waouh, c'est
donc,
super.
Tu nous dis que ça ne fait pas obligatoirement appel à une croyance, c'est bon, faut se laisser aller.
Voilà, c'est pas lié du tout à une croyance, à une religion. La seule croyance
qu'on a, en soi,
c'est de croire en son pouvoir de guérison, ouais, en se disant que oui, ça dépasse en fait juste le médicament ou le pouvoir des plantes qui véhiculent des informations. Tout ça, c'est que en fait, c'est la croyance, c'est en fait notre monde est fait que d'informations. Et que si je pose l'information de je demande quelque chose, parce que voilà, je vais expliquer comment se déroule la séance, mais je demande quelque chose et j'ai la croyance que l'information de ma demande va circuler et que des énergies vont venir contribuer à ma demande.
Waouh.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des outils, je sais pas, des petits cailloux, des petites pierres? Non, c'est juste les mains. Et c'est
alors, dans la pure tradition, c'est juste les mains.
D'accord.
Voilà, et la demande qu'on fait effectivement à l'énergie universelle. Et après, il y a des symboles qui ont été développés dans un deuxième temps, qui viennent donner plus de puissance, qui viennent canaliser plus fortement. Donc souvent, on les signe avec les mains. Où on les mentalise, moi ça m'arrive de juste les visualiser. Et il y a aussi, alors après, évidemment, comme dans toute chose, il y a eu tout comme des goodies. Ouais. Donc on peut avoir des pierres où c'est gravé. Voilà. On peut les utiliser, ne pas les utiliser. Ça c'est pareil, c'est des questions de croyance. Est-ce que j'ai la croyance que ça va augmenter la puissance du soin? Est-ce que je ne l'ai pas? Voilà.
Est-ce qu'un répéteur Wi-Fi peut aider à envoyer plus d'énergie? Renvoyer le signal un peu plus loin, un peu plus fort. Non, pardon.
Pas besoin.
Pardon pour cette
a besoin.
Vous pratiquez Charlie Cordeau, hein, pour rappel, vous êtes praticienne en Reiki, vous faites également des massages. D'ailleurs, on peut glisser un mot sur cette compétence. Vous intervenez sur le département, mais aussi au travers de la planète, grâce aux hautes technologies de l'Internet, notamment. L'énergie peut circuler, vous nous l'avez dit, elle est universelle. Hein. Vous avez, ça peut se faire par téléphone, en fait,
on
une séance
faire,
de Reiki.
Oui, alors je peux faire des soins à distance, effectivement, comme dans toutes les pratiques énergétiques. Donc, dans ce cas-là, je donne un rendez-vous, on échange, on prend vraiment le temps d'échanger, de bien comprendre la demande. Avec la personne, nous formulons une demande. Donc ça, c'est aussi en présence. L'idée, c'est de bien comprendre. La personne m'exprime ce pourquoi elle vient. Moi, je reformule pour voir si j'ai bien compris. De là, on tombe d'accord sur une formule claire, une demande claire qu'on va faire. Voilà. Et quand c'est à distance, à ce moment-là, je donne des conseils, j'amène la personne à se détendre, se relaxer. Puis nous raccrochons, moi je me centre, je fais le soin. Et ensuite, quand la personne sent que le soin est terminé, parce que la personne le sent d'elle-même, elle va continuer, ou peut-être elle s'est endormie, elle dort parce que c'est ce dont elle a besoin, soit elle continue. Et en fait, nous nous rappelons le lendemain pour faire le bilan de la séance. Donc la personne me raconte ce qui s'est passé pour elle, et moi je lui fais part de ce qui s'est passé pour moi. En général, c'est très proche. Voilà. Et donc ça, c'est assez magique. Moi, j'avoue que pendant des années, je ne croyais pas à ces histoires de soins à distance. J'en ai reçu. Et ça m'a surprise. Et maintenant que je pratique, je vois que ça fonctionne vraiment. Et ça, c'est hyper... C'est génial. Enfin, pour moi, ça vient vraiment abonder dans le sens de l'énergie est là et l'information circule. Et après, sur les séances donc, en présence, donc c'est pareil, on a un rendez-vous. L'idée, c'est que la séance, elle peut se dérouler selon plusieurs temporalités. Ça peut être 30 minutes, une heure et demie. Elle peut s'accompagner d'un soin, justement, massage. Je propose ça. C'est quelque chose qui ne se fait pas forcément souvent. Mais moi, comme j'ai les deux compétences, j'aime bien associer les deux. Ça fait un soin très complet. Et donc, c'est pareil. Pareil, quand la personne prend rendez-vous, il y a d'abord un appel téléphonique pour qu'on puisse déterminer, pour voir si c'est... Voilà, je la questionne pourquoi le Reiki, etc. Je lui parle un peu de la pratique. On tombe d'accord pour un rendez-vous. Quand la personne arrive, il y a toujours un vrai temps de parole et des fois, ça peut être long. Et ensuite, le soin se fait donc sur table. Et à ce moment-là, il y a un protocole en Reiki où on déplace les mains à des endroits bien précis. Aujourd'hui, avec le temps de ma pratique, je suis beaucoup plus à l'écoute de l'énergie et les informations que je reçois. Et je ne vais pas forcément respecter un timing ou un protocole précis. Je vais écouter l'information que je reçois et déplacer les mains. En fait, mes mains sont déplacées. Ce n'est pas moi qui fais le soin. Et ça, c'est hyper important. Et c'est le principe du Reiki, il est là. C'est de dire la personne n'est pas actrice. C'est l'énergie qui est actrice. Et moi, je suis au service de l'énergie et de la guérison de la personne. Donc, je me laisse guider par l'énergie. Et en général, c'est très pertinent. C'est-à-dire qu'en fin de séance, une fois que je dis, on a passé tant de temps sur telle partie du corps, la personne me dit, il y a tant d'années, j'ai eu un accident là, ou etc. Et donc, en fait, ça vient libérer des mémoires. Et donc, parfois, il va falloir plusieurs séances pour aller au fond de quelque chose. Et il y a un truc qui est aussi très surprenant, c'est que parfois, je viens avec une demande précise. Par exemple, en ce moment, je me sens très fatiguée. Là, j'ai besoin d'un soin général pour relancer l'énergie vitale dans le corps. Donc, on part avec cette demande. Et en fait, pendant le soin, moi, je vais observer que, je vais rester très longtemps sur un organe, par exemple, ou une partie du corps. Et ensuite, en discutant avec la personne, j'apprends que, il s'est passé quelque chose, soit récemment, soit il y a longtemps. Un choc, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc physique, une blessure ou autre. Et en fait, l'énergie a entendu la demande de la fatigue générale, sauf qu'il y avait quelque chose de plus important à gérer ici et maintenant. C'était ça. Et donc, c'est ça qui est passé en priorité.
C'est parfaitement défendu. Voilà, mais je peux rien vous dire d'autre. Une dernière question un peu bête. Est-ce que vous avez tenté de faire rentrer des objets en lévitation avec ces super pouvoirs énergétiques, tel maître Yoda, de se dire tasse de café, viens sur ma table basse.
Je serais curieuse d'essayer. Ouais. C'est une bonne idée.
Info pratique, on l'a entendu, 1h30, 1h45 la séance. Ça coûte combien? On tape Charlie Cordeau, on vous trouve assez facilement, vous êtes référencé.
Donc le tarif de base pour une séance d'une heure, pour un soin d'une heure, donc une séance donc de plutôt 1h30, 1h45, c'est 45 euros.
Non, pardon, j'ai anticipé le prix, mais oui, c'est ce qu'on retrouve assez fréquemment pour ce genre de soins.
Pour les soins énergétiques, en général, c'est le prix. Et après, en fonction, on va adapter aussi, évidemment. Et puis, si on vient sur des cycles de 3 soins, il y a 10% de réduction, etc.
Ok, et eh bien merci. On est obligé de. C'est un entretien un peu comme un kiné ou pas? Non, c'est quand on en a besoin. Oui, il faut quand même l'entretenir
peut,
un petit peu.
Alors, ça dépend des personnes, par exemple. Moi, je reçois des personnes qui ont des fibromyalgies ou d'autres choses. Et donc, effectivement, elles viennent tous les mois. Il y a des personnes qui vont venir toutes les semaines pendant. On fait des cures, en fait. Mais ça dépend de chaque personne. Moi, j'adapte, en fait. Je propose et la personne dispose. De toute façon, c'est toujours la personne de sentir ce dont elle a besoin. Pour moi, c'est ça le plus important.
Bon, une pratique qui ne se substitue pas au pilulier du matin pour certaines personnes et puis aux maladies quand même graves et lourdes, faut quand même le dire aussi.
Ça va soutenir la guérison, ouais. Mais en effet, ça ne remplace pas.
Et ben voilà, c'était parfait. Merci Charlie Cordeau, vous revenez quand vous voulez pour, sais pas, lancer des boules de feu ou faire...
Je vais m'entraîner pour les objets.
Ah, s'il vous plaît, là, vous m'appelez quand vous faites ça. Allez, merci, belle journée.
Merci, au revoir.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.